La première fois que Claude Vivier est venu me voir, c'était, n'est-ce pas, un de mes grands amis et collègues qui me l'avait adressé. Il s'agissait de Gilles Tremblay, qui était Canadien comme lui. Gilles avait décelé en Claude Vivier cette espèce de force intime de vouloir créer, ce tempérament authentique de compositeur, de quelqu'un qui a quelque chose à dire en ce jeune compositeur qui était vraiment à l'orée de sa vocation. Quand Claude est venu à Paris, il était très pauvre. Et donc, il a vécu quasiment pendant une année chez moi. Il m'a présenté quelques œuvres qui me paraissaient extrêmement dadaïstes. C'est-à-dire qu'il y avait des musiciens qui venaient sur scène en jouant, en parlant, qui jouaient, qui sifflaient, qui repartaient, d'autres musiciens venaient les remplacer, etc. C'était amusant, mais il y avait une liberté trop extrême, à mon avis. Et donc, ce côté gratuit m'avait beaucoup choqué, n'est-ce pas ? À la suite de quoi, j'avais dit à Claude, « Écoute, Claude, tu te disperses trop. Ça me paraît nécessaire pour toi actuellement, je le sens vraiment. Il faut une structure logique, un concept simple. Je veux que nous travaillions sur un seul matériau, pour ainsi dire, un seul élément de base. » Et donc, il s'est plié très, très correctement à cette idée contraignante, je l'avoue. Et il a commencé donc à travailler sur une pièce qui s'appelle « Désintégration », pièce écrite pour deux pianos, quatre violons et deux altos. Par la suite, il a écrit des œuvres extrêmement structurées et beaucoup plus personnelles. J'étais très fier du travail que nous avions fait ensemble, car sans cette expérience de désintégration, je ne pense pas qu'il aurait pu arriver à cette unité. Bien sûr, Claude était un garçon d'une extrême liberté, d'une extrême fantaisie, extrêmement libre dans sa pensée, dans sa façon de vivre. Et il a continué à utiliser parfois des matériaux très hétérogènes. Et il a su montrer par son opiniâtreté combien il avait raison parce que sa musique est une grande poésie. Dans les œuvres de la première période, par exemple, circulaient les mêmes principes, les mêmes matériaux, les mêmes éléments de l'une à l'autre, bien qu'agencés différemment dans chacune d'entre elles. Cela nous donnait un peu l'impression que toutes ces dernières compositions ont été l'aboutissement d'un work in progress et que pratiquement il écrivait toujours la même œuvre. Il avait toujours une grande obsession, c'était l'absence de la mère. Cette tendresse, il appelait toujours de tout le temps, même dans chant pour cette voix de femme, Mamouchka, maman. Claude avait très peur de la nuit. Sa musique le rassurait, et dans son studio à Paris, il avait un nombre de lampes inimaginables. Il fallait qu'il dorme dans la lumière. Il ne pouvait pas dormir dans l'obscurité, tellement il avait peur. C'était comme un enfant qui n'avait pas abouti à ce qui se passe après l'enfance. Ce qui est très particulier chez Claude, qui me plaît beaucoup, c'est aussi son sens du timbre, de la couleur. D'ailleurs, mes rares élèves qui se sont réalisés comme compositeurs ont une grande faculté de travailler sur le timbre et sur l'espace également. Il travaillait toujours d'une façon extrêmement lucide, précise, sur les spectres harmoniques et même inharmoniques du son, dont il avait une profonde intuition. Il ne faisait pas d'une façon scientifique. Son intuition était étayée par une grande naïveté, mais cette naïveté a pris part à l'originalité de son geste, de son mouvement musical, de sa créativité. Par exemple, quand il utilisait même des accords classés, comme les accords parfaits, ce n'était pas par esprit de concession. C'est parce qu'il avait besoin de la sonorité, c'était un objet. Et ça se trouve chez certains jeunes compositeurs aujourd'hui, très remarquables, comme Toshio Ozawa. Leur usage correspond, je dirais, poétiquement, à une qualité d'innocence. Il manifestait ainsi son rejet du conformisme. Vous savez, ce qu'on appelle aujourd'hui, ce que j'appelle moi, les compositeurs IKEA. Ils font ce qu'on attend d'eux. Or, lui, ce n'était pas du tout ça. Il avait ses propres règles, il avait ses propres idées. Il était comme un jeune enfant qui ne supporte pas qu'on lui impose des choses strictes, même s'il en avait besoin d'une certaine façon. Claude s'intéressait à beaucoup de choses. Il adorait la peinture, il adorait la littérature. Il partait parfois en voyage avec un sac à dos sans un centime, en faisant du stop. Et tout était pour lui une incroyable découverte, tout le concernait. Il vivait cela comme une sorte de recherche de ses propres racines. Quand il est allé à Bali, ça a été mais inouï. D'autre part, il avait un ego extrêmement fort. Dans mes élèves, c'est celui qui parlait le plus tout le temps de lui-même. On passait des nuits entières où il parlait de lui et de lui. De la dernière œuvre, de ses dernières expériences. J'en étais épuisé parfois, mais c'était toujours passionnant. Mais en même temps, il avait une très haute conception de la philosophie, de l'éthique musicale et même de la religion. Il n'était pas simplement un grand chrétien, il était un homme religieux qui était pour le bien. Il était presque déiste quelque part. Ensuite, Claude a été voir Stockhausen, il m'avait demandé s'il devait le faire. Et Karl Heinz, par ses certitudes très fortes, a été comme un dieu pour lui. Parce que Karl Heinz présentait vraiment le père le plus parfait. Et ça a été formidable. Et nous avons continué à nous voir jusqu'à la fin, je dois dire. Une chose terrible, c'est que 3 mois avant sa mort, il m'a annoncé, pour ainsi dire, sa mort, de même qu'il a écrit à Thérèse Desjardins, qui était son tuteur au Canada. Il m'a dit, j'ai reçu, figure-toi, quelqu'un chez moi, et il a failli me tuer. À quoi je lui ai dit, mais Claude, il ne faut pas recevoir des étrangers chez toi, c'est absurde, il faut cesser ça. Fais ce que tu veux dans ta vie, mais pas ça. On s'est fâché. On s'est réconcilié quelques jours après, mais malheureusement, 3 mois après, il a refait cette expérience, et cela lui a été fatal. Voilà.